Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Littérature sans frontières, une terre, une auteur.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Destination, l'Islande.
Bonjour à toutes et à tous. En 2013, les Islandais, appelés à élire le plus beau mot de leur langue, ont choisi un substantif de 9 lettres désignant une profession médicale. Jósmordir, sage-femme. Dans son argumentaire, le jury souligne qu'il unit deux mots magnifiques, modir, qui signifie mère, et lios, lumière, mère de la lumière. C'est avec ces mots que s'ouvre le nouveau roman de notre invité, une fiction traduite en français par Éric Bourri aux éditions Zulma et parue sous le titre « La vérité sur la lumière », signée de l'écrivaine islandaise, que je vais laisser prononcer son nom. Bonjour.
Auður Ava Ólafsdóttir. Ólafsdóttir, c'est la fille de Ólafur, qui était le prénom de mon père.
Et donc, comme on vient de l'entendre, vous parlez parfaitement le français. C'est vrai que vous avez un lien particulier avec notre pays, qui vous aime beaucoup, qui vous a récompensé d'ailleurs avec le prix Médicis étranger pour votre roman précédent intitulé Miss Islande. Par quel miracle parlez-vous et connaissez-vous la langue française ?
Oh, c'est gentil de le dire, mais en fait, en réalité, je ne le pratique plus depuis maintenant 2 ans. Je suis restée là-bas chez moi sans voyager pendant le Covid. Là, je suis restée là-bas à écrire et à ne plus parler le français.
Mais quel est votre lien avec le français?
Alors, au siècle dernier, j'ai fait mes études d'histoire de l'art à Paris. Et ma fille est née, elle est née à Paris. Voilà pour le lien. Il fallait avoir quelque chose à montrer quand je suis rentrée sans avoir terminé le doctorat. Donc un bébé dans les bras.
Et une langue.
Et une langue. Et de la culture française. Moi, j'ai commencé à lire en français. À connaître la littérature, les auteurs que je ne connaissais pas avant, qui n'étaient pas traduits en islandais.
Par exemple?
Et Margaret Duras, par exemple, Hervé Guibert, et tant d'autres, les auteurs maghrébins, par exemple.
Et vous avez toujours gardé donc ce lien
avec... Annie Ernaux.
Annie Ernaux, évidemment. Vous avez toujours gardé ce lien ensuite avec la langue et la littérature française.
Moi, j'aime bien la France. Si je devais demander de l'asile à cause de catastrophes naturelles, ça serait probablement la France. La Bretagne, puisque c'est tout près de la mer, je pourrais regarder vers l'Islande.
En tout cas, voici ce nouveau roman. La vérité sur la lumière qui, à travers le quotidien d'une femme prénommée Dia, raconte une lignée de sages-femmes en Islande. Est-ce qu'en effet, c'est le fait que les Islandais ont choisi le mot de sage-femme comme le plus beau mot de leur langue, comme je le disais au début de notre entretien, qui vous a incité à écrire un roman sur cette profession et plus largement cette réflexion sur la vie ?
Oui, tout à fait. Le point de départ était en 2013, quand les Islandais ont élu ce mot « sage-femme » ou « ljósmóðir », comme on dit, la mère de la lumière, comme leur mot préféré. Et si je me souviens bien, c'était une couleur bleue de la crépuscule qui était en deuxième place, « húmbláur ». Un peu de l'heure bleue, puisqu'on a au moins 200 mots de couleur bleue dans la langue islandaise. Mais ça, c'était le point de départ. Il y avait même une petite cérémonie à l'université où on a symboliquement donné un bouquet de fleurs à la personne qui était tirée au sort, qui avait choisi ce nom. sage-femme. Et pour quelques raisons que j'ignore, on m'a demandé de parler, de faire un petit discours. Et là, j'ai décidé que j'allais écrire un roman où l'héroïne, où la protagoniste était une sage-femme. Et ça devait être un roman sur la lumière dans un monde noir. Et essayer de comprendre le rôle et l'importance de la lumière. Et en fait, c'est devenu un roman sur l'animal-homme, sur la bête humaine. Et je trouvais ça logique qu'une sage-femme qui accueille l'enfant qui vient au monde, cet animal qui est le plus fragile, le plus vulnérable de tous les animaux, qui dépend des autres pendant longtemps. Et moi, j'ai trouvé ça logique qu'elle devienne une spécialiste sur la nature humaine. Et au fond, en arrière-plan, il y a quand même une étude, une réflexion sur ce que l'homme a fait à la Terre.
Effectivement, ce sont vraiment toutes les autres lectures qui découlent de ce roman. Mais si vous voulez bien, dans un premier temps, on va s'arrêter sur ce métier de sage-femme qui est si beau, avec cette narratrice qui a une quarantaine d'années. Elle est célibataire, elle n'a pas d'enfant, on comprendra pourquoi plus tard. Et elle a reçu sa vocation, non pas de sa mère directement, qui elle travaillait dans les pompes funèbres, c'est intéressant ce cycle de la naissance et de la mort, mais cette vocation lui vient de sa grand-tante, avec un engagement très fort, on sent un combat. Je me demandais d'ailleurs si c'était propre à l'Islande, dans la mesure où il y a un climat, où il y a une géographie, ces très longues nuits en hiver, toutes ces contraintes qui font que accoucher, ce n'est pas un événement à prendre à la légère. En tout cas, c'est peut-être justement un événement qu'il faut prendre beaucoup plus sérieusement que dans d'autres pays. Est-ce que vous diriez que c'est le cas en Islande ?
À la campagne, oui. Mais à Reykjavik, on accouche à l'hôpital national quand même, où travaille l'héroïne. Mais l'autre fois, la sage-femme, elle devait voyager en hiver pour sauver la vie d'une femme. C'était la seule personne à voyager. Il n'y avait pas de route en Islande avant, je sais pas, 1940, presque pas.
Et vous citez l'exemple d'ailleurs de sa grand-mère,
oui,
alors qu'elle était enceinte de son 10e enfant, a traversé je ne sais combien de kilomètres.
À pied,
dans le froid,
des rivières,
dans la neige, pour aller aider une autre femme à accoucher. C'est héroïque.
Oui, j'ai entendu plusieurs histoires justement qui racontent cela. Et on ne parle pas de ces femmes. C'était un métier de femme, mais on n'en parle pas vraiment.
Pourquoi ?
C'était des héros, mais je pense parce que c'est considéré comme une partie de la vie, de faire des enfants, faire naître des enfants. Et c'était une tâche, un rôle des femmes. Ce n'était pas un métier d'homme. De s'occuper de cela, ni de mettre au monde les enfants.
Donc c'est un métier qui
On dit que c'est ça, quelquefois, que cela serait une priorité si c'était des hommes qui mettaient les enfants
au monde. Mais si c'est des femmes, ce n'est pas une priorité.
Si c'était une priorité du système de santé, si c'était des hommes.
Donc c'est une façon aussi pour vous de redonner de la reconnaissance à ce métier extraordinaire.
Oui, tout à fait. Mais surtout, de comparer l'homme avec les autres animaux et essayer de répondre à cette question, comment cette, cet être qui est 50 cm environ au début, comment il peut devenir si cruel et comment il est arrivé à détruire la planète, la Terre. Mais j'essaie quand même de donner un peu d'espoir aussi, puisque l'homme a un cerveau qui est, paraît-il, 5 fois trop grand par rapport au corps, à la taille du corps. Et il peut trouver des solutions aux problèmes s'il veut. Et puis, vous savez, dans mon roman précédent, L'Or, j'ai posé la question si l'homme était le seul animal à pleurer ou le seul animal à rire. Et la réponse était qu'il était le seul animal à faire les deux, à rire et à pleurer. Mais dans ce roman-là, La vérité sur la lumière, mon héroïne a découvert, ou sa grande tante, que l'homme est le seul animal à faire écrire de la poésie, à raconter des histoires.
Et on y arrive, en effet, vous avez raison, puisque au-delà de la naissance, votre roman, comme son titre l'indique, qui est aussi une réflexion sur la lumière, mais pas seulement existentielle ou spirituelle, mais la lumière qui nous éclaire, celle du soleil, celle des lampes. La luminosité, c'est une réflexion sur le lien homme-animal, les dérèglements climatiques et puis une réflexion autour de la littérature. Et nous allons en parler dans la deuxième partie, mais pour l'instant, on va faire une pause musicale et il y a beaucoup de choix puisque votre narratrice a recensé plus de 60 titres de chansons qui ont « born » dans leur titre. « Born » qui veut dire évidemment « né » ou « naissance » en anglais. Alors, je ne sais pas si vous avez envie qu'on écoute un de ces 60 titres ou alors il y a également de la musique classique. Il y a ce magnifique morceau de Franz Liszt et en particulier Consolation numéro 3 en ré bémol majeur sous la direction d'Horowitz. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre ?
Aussi en anglais, il y a Born to Run de Bruce Springsteen, par exemple. Il y a Born to be Alive, Born Alone, Born to be a Dancer. Elle cite Born to Die, évidemment. Born to Love, le plus important dans la vie.
Vous avez raison. Alors, qu'est-ce qu'on écoute?
Peut-être Bruce Springsteen, Born to Run.
D'accord. Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine. Je vais essayer à nouveau de prononcer votre nom sans trop le déformer. Auður Ava Ólafsdóttir. Est-ce que ça va ?
C'est parfait. C'est plus que parfait.
Dont le nouveau roman vient d'être traduit en français par Éric Bourry sous le titre « La vérité sur la lumière » aux éditions Zulma. On l'a dit en première partie, c'est une fiction qui met en scène une sage-femme en Islande sur le point de mettre au monde son 1922e bébé à la veille des fêtes de Noël, où est annoncée d'ailleurs une terrible tempête. C'est ce que lui dit sa sœur qui, elle, est météorologue. Et c'est donc une situation qui résume parfaitement le cercle de la vie, naître et mourir. Et entre-temps, peut-être vivre et écrire. Ainsi, Dia, qui vit dans l'appartement de sa défunte grand-tante, découvre un an après le décès de celle-ci, elle était également sage-femme, un gros carton avec trois manuscrits, enfin trois textes qui ont été tapés à la machine mais qui n'ont jamais été publiés. Ce sont des textes de réflexion. Souvent, on compare l'écriture et l'accouchement d'un enfant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des similitudes entre les deux actes?
La création, donc. Et là, je ne sais pas, mais c'est plus difficile de mettre un enfant au monde, en tout cas pour moi, je pense, que d'écrire. Mais elle essaye par écriture de comprendre cet animal, l'homme. Et il y a un manuscrit donc, qui s'appelle « La vérité sur la lumière ». Donc, il y a un livre à l'intérieur du livre, en fait. Mais c'est inachevé, ce travail, cette étude sur l'homme. Je pense qu'elle renonce la grande tante à la fin de comprendre l'homme. Il reste que le plus important, c'est d'aimer. On est né pour aimer, comme elle dit. Mais elle, comme je disais avant, il y a c'était une étude sur la nature de l'homme, mais aussi sur la nature et sur le réchauffement climatique, la crise climatique. Et cette grande tante de l'héroïne, elle a écrit des articles publiés dans les journaux. Elle a commencé il y a 50 ans à écrire des articles sur le problème climatique, mais qui n'intéressait personne
à l'époque. Oui. Et sur le bien-être animal aussi.
Voilà, c'est ça.
C'est une des premières à dénoncer ce qui est fait aux animaux.
Oui. Et elle rappelle à nous que même si l'homme a besoin de la nature n'a pas besoin de
l'homme.
De l'homme. Elle se débrouille tout très bien sans l'homme. Et on est effectivement en Islande, on est affronté à ce réchauffement climatique, notamment les glaciers qui reculent plusieurs dizaines de mètres chaque année. C'est vraiment visible. On a même, il y a même un glacier qui a été déclaré éteint, déclaré mort. Donc, oui, il y a on peut dire qu'il y a un thème écologique dans ce roman, mais j'essaie toujours de raconter quand même une histoire.
Je reviens juste au début de la conversation, vous disiez que accoucher d'un enfant, c'était plus difficile que d'écrire, plus douloureux, plus long. Dans quel sens c'est plus difficile?
Physiquement, en tout cas, pour beaucoup de femmes, l'écriture, c'est, pour moi, ça vient plus facilement, c'est plus naturel. Moi, j'ai pas mis 16 enfants au monde comme ma arrière-grand-mère, mais...
16 enfants?
Oui, mais juste deux.
Vous en avez deux?
Deux,
c'est oui. Bien déjà. Deux enfants, mais beaucoup plus de livres. Donc effectivement, pour vous, l'écriture, c'est plus naturel ou moins difficile?
Oui, la naissance, c'est toujours une naissance de la lumière, puisque l'enfant, c'est lumière du monde. C'est aussi l'allusion à l'origine du monde.
Vous pensez au tableau de Courbet, peut-être, l'origine du monde?
C'est possible, oui. Par exemple, oui.
Cette grand-tante, elle dit en même temps, et c'est ce qu'on découvre à travers les yeux de Dia, qui fouille dans les papiers, qui essaye de mettre de l'ordre dans ces trois manuscrits, elle tombe face à une phrase qui me frappe beaucoup. « J'ai abdiqué face au langage ». Qu'est-ce qu'il faut entendre par là?
Ouais. Oh, c'est un peu ce que dit Greta Thunberg. Mm-hmm. On dit que blablabla, bla, bla, mais c'est l'action qui compte, en fait. Je pense qu'elle a un peu renoncé à la grand-tante à comprendre l'animal humain, l'homme. Et elle s'est mise à coudre, comment on dit,
Elle tricote. Et elle aussi, elle fait de la broderie.
Elle fait de la broderie.
Elle
voilà.
Tricote pour les nouveau-nés.
Oui, elle appelle ça son œuvre de oui. La broderie qui, elle entend, elle dit que le plus difficile, ça va être de broder la lumière. Donc, c'est en quelque sorte son dernière œuvre qu'elle fait à la main au lieu d'écrire.
Mais si son œuvre, c'est de broder la lumière, ou en tout cas d'essayer de broder la lumière, est-ce que vous, votre œuvre, c'est d'essayer d'écrire la lumière?
Oui, j'essaye de... C'est devenu un livre sur plusieurs façades de la lumière dans le monde, avec ses mères de la lumière. Il y a d'autres métiers comme l'électricien, qui sont liés aussi à la lumière. Et il y a ce brigade, cette équipe de femmes qui sauveteurs, qui rescuent les baleines échouées. Il y en a beaucoup ces dernières années, des baleines échouées en Islande. Et vous savez, les baleines ont de l'importance dans le roman aussi, parce que les baleines ont besoin aussi d'une sage-femme ou d'un autre animal pour aider le petit à remonter à la surface, parce qu'il naît avec la queue en premier. Donc il y a ces deux animaux qui utilisent une sage-femme.
C'est ce qu'on apprend en effet en vous lisant, cette merveilleuse comparaison entre l'accouchement d'une baleine et l'accouchement d'une femme, qui toutes les deux ont besoin d'une autre personne pour les aider à amener le bébé vers la lumière. Mais de fait, vous ne pouvez pas dire « j'ai abdiqué face au langage », parce que le langage, les mots, l'écriture, c'est votre œuvre, c'est votre moyen d'expression.
Oui. Oui, c'est mon métier, tout à fait, mais j'y ai pensé quand même.
Arrêter?
Cultiver quelque chose comme des carottes ou travailler avec les mains.
Mais en
la
plus.
La terre, planter des arbres.
En plus, pas à la place.
Je sais pas, pas encore, mais tant que j'ai quelque chose à dire, je vais continuer à écrire. Cette période que j'ai passé là en Islande, les presque 2 ans, a été très créatif en fait. Alors, je pense toujours que mon dernier né, mon petit dernier roman sera le dernier. Mais vers la fin, j'ai toujours un nouveau qui est en cours, en gestation.
Vous voyez, vous là... faites de la comparaison aussi entre écrire et faire un enfant.
Oui, oui.
Qui est-ce qui vous accouche, vous? Qui est-ce qui vous aide à faire sortir un livre?
Personne, juste moi-même. J'ai toujours des idées, j'ai toujours plein d'imagination. Et puis, il y a cette idée étrange de mettre en ordre dans le monde, cette volonté de d'organiser le chaos, de donner un sens au chaos, puisque la vie est tellement chaotique et il y a toujours des imprévus qui arrivent tout le temps. Et un roman, en fait, est quelque chose à l'opposition de la vie, puisque c'est une entité structurée avec un début, avec une fin. Et je pense pas qu'il existe un texte innocent. Tout ce qu'on met dans un livre, c'est là pour une raison. Et moi, méthode à moi, c'est un petit peu de décrire sur les petites choses de la vie quotidienne, essayer de leur donner un sens de quelque chose de plus grand.
Donc vous voyez l'écriture comme mettre du sens à la vie qui n'en a pas.
C'est ça. On peut le mettre comme ça. Mais ça dépend. Le soleil se lève, le soleil se couche, on est en vie encore. Moi, je pense que ça relève du miracle. En fait, il y a un manuscrit, un des trois manuscrits, que découvre l'héroïne qui parle du hasard, de la coïncidence. Et la coïncidence la plus importante de la vie, c'est la conception.
C'est vrai, il faut des milliards de spermatozoïdes qui se mettent en compétition pour féconder un ovule.
C'est ça.
C'est sûr que c'est du hasard et des coïncidences. Ouais. Puisque la lumière est très importante ici, en particulier dans ce livre, et que la lumière l'est aussi pour les Islandais, parce que votre vie est rythmée par les saisons, par ce soleil qui peut être pendant des heures l'été, et qu'on ne voit que quelques minutes, enfin j'exagère, l'hiver. Est-ce que ça a une influence sur vous, sur votre écriture, la lumière ?
Oui, absolument. Moi, j'ai pas seulement très sensible aux mots, c'est-à-dire en islandais, mais aussi à la lumière. Et moi, j'ai des amis je pense notamment à un artiste visuel qui pourrait dire exactement si c'était la lumière du 16 septembre ou le 3 mars. Juste par la lumière, parce qu'il n'y a pas de jours qui sont en fait identiques en Islande. C'est un peu cette hôte à la lumière que j'avais envie de parler aussi. Et à la fin du roman, il y a de plus en plus de l'espace entre les mots et par conséquent de plus en plus de lumière aussi.
Entre vous l'écrivaine et nous les lecteurs, on crée un livre, on crée un enfant,
ouais,
presque.
Ensemble.
Ensemble. Merci beaucoup, Auður Ava Ólafsdóttir, d'être venue nous parler en français de ce si beau roman qui vient d'être traduit aux éditions Zulma par Éric Bourri sous le titre « La vérité sur la lumière ».
Merci à vous.
Littérature sans frontières.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.